Ont vécu à Yale se transformera bientôt en colère puis en croisade.
In this country, I think are fundamentally dependent on going through a set of very hostile institutions.
Ce rejet des élites de l'université, Jed Evans le formule après avoir entendu une conférence à Yale d'un homme, un milliardaire, l'un des hommes les plus puissants de la Silicon Valley. Fervent catholique qui a fait fortune dans la tech en lançant l'application PayPal avec Elon Musk et en étant parmi les premiers investisseurs de Facebook. Son nom, Peter Thiel.
Different technologies we can outline, but the task in this world where politics has become so broken and so dysfunctional is to find a way to escape from it. It's not a way to fix it, it is a way to escape.
Thiel entretient une relation compliquée avec la démocratie. Il est célèbre pour avoir déclaré que liberté et démocratie ne sont plus compatibles. Son idée, c'est que si on atteint une démocratie économique totale, certaines personnes perdent leur liberté économique, en particulier les riches. La solution consiste donc à restreindre la démocratie au service de la liberté. Il considère que ces deux notions sont en tension et il choisit la liberté plutôt que la démocratie.
Vance raconte que dans son souvenir, le discours de Thiel lui a fait comprendre qu'il ne voulait pas devenir avocat ni continuer ses études de droit.
C'est probablement la personne la plus importante dans la vie de Jed Evans après sa femme et ses parents. C'est un homme brillant, perspicace, doté d'un esprit très structuré. Il n'est pas du tout comme Elon Musk, qui a l'air à moitié fou un jour sur deux. L'une des raisons du succès de Thiel, c'est son œil formidable pour déceler les nouveaux talents. Il a été le premier à repérer Jed Evans très tôt et à vraiment voir en lui un immense potentiel.
À la fin de ses études, en 2013 à 29 ans, Jed Evans s'installe dans la Silicon Valley. Peter Thiel lui apprend son métier d'investisseur en capital risque. Vance est doué et il devient riche, très riche. Thiel, figure paternelle, le guide aussi vers la foi catholique. Et c'est là, depuis la Californie rutilante et tournée vers l'avenir, que Vance se penche sur son histoire. L'histoire de l'autre Amérique, celle des oubliés, enfermés dans son passé.
And we're back with J.D. Vance. He's the author of the excellent book, Hillbilly Elegy.
A memoir of a family and culture in crisis.
Did you have any idea when you wrote this book that it would be a huge bestseller, Hillbilly Elegy?
No, I didn't. I definitely didn't expect it to have quite the response that it's had.
Je parlais de ce livre avec Vance alors qu'il n'était encore qu'un projet. Au départ, il voulait écrire un ouvrage censé trouver des solutions de droite pour répondre aux problèmes de pauvreté dans le monde rural. Il a donc écrit un plan et l'a présenté à un éditeur, Eric Nelson, chez HarperCollins. Il lui a répondu « Ok, j'aime bien cette idée, mais avant j'aimerais que tu m'écrives quelques pages pour raconter ta propre vie. » Jed Evans a écrit un texte sur sa vie, et Eric Nelson lui a dit « C'est parfait, c'est ça notre livre, le reste on oublie. »
You know, when I read this book, which I read over my husband's shoulder as an e-book on a plane,
Vance s'est transformé en une sorte de commentateur que les grands médias invitaient pour expliquer le phénomène Trump, principalement aux électeurs libéraux de gauche. Il était dans les talk shows, sur les chaînes d'info, et il écrivait pour différents médias.
Well, I didn't expect it to be so politically relevant and timely in that way, but I definitely knew that there were very significant problems that would express themselves in our politics eventually. I just didn't realize.
JD was just kind of a nice fresh face to come on.
JD était un peu la nouvelle tête sympa sur le circuit des plateaux télé. Et il était capable de parler les deux langues. Il parlait la langue des élites côtières libérales de l'Amérique, mais il était aussi capable de leur apprendre un peu ce que c'est de grandir dans une ville post-industrielle oubliée. Il était une sorte de Sherpa pour l'Amérique libérale, en mode « Allez, suivez-moi, je vais vous expliquer pourquoi ces gens sont tellement en colère ».
Et quand on l'interroge sur le nouveau président Donald Trump, le jeune républicain ne mâche pas ses mots.
Trump est un
À l'époque, Jed Evans m'a dit en privé, mais il a dit aussi publiquement que Donald Trump était moralement répréhensible.
qu'il était le Hitler américain. Ce ne sont pas des termes ambigus, ses opinions étaient très, très claires. C'est juste un homme mauvais, un être humain moralement répréhensible. Je suis évidemment outré par la rhétorique de Trump. Ce qui m'inquiète le plus, c'est les citoyens musulmans qui ne se sentent pas les bienvenus dans leur propre pays. Il y a toujours eu de dangereux démagogues prêts à exploiter des gens qui ne pensent pas comme eux.
Dans les colonnes de The Atlantic, il a publiquement déclaré que Donald Trump était à la politique ce que l'héroïne est à un toxicomane. Une substance qui promet la fin de la douleur, mais qui en réalité ne fait qu'aggraver les problèmes. Et pour Vance, vu son histoire familiale, l'analogie avec l'héroïne n'était pas une formule creuse. Ce n'était pas que des mots. C'était la douleur la plus profonde de sa vie, et il disait que Trump était de l'héroïne pour les gens qui ont voté pour lui.
J'ai lu Hillbilly Elegy dès sa sortie et je l'ai trouvé incroyablement émouvant. À tel point que ça m'a fait pleurer. Et je n'avais jamais pleuré en lisant un livre avant. C'était stupéfiant d'imaginer qu'à cet âge-là, ce jeune homme ait déjà accompli tant de choses dans sa vie. Il avait été un marine décoré. Il avait fait des études de droit à Yale et il avait déjà réussi dans le monde des affaires. À cette époque, il n'était pas encore entré en politique. Il était une sorte de célébrité médiatique. Avoir réussi tout ça malgré une enfance très difficile, c'est remarquable.
Je m'appelle Steve Cortez. J'étais porte-parole et stratège en communication pour la campagne sénatoriale Vance 2022.
Super, c'est parfait.
J'ai l'habitude des caméras. Je savais que si JD se lançait, il aurait besoin d'aide. Et je voulais faire partie de son équipe. Alors j'ai contacté JD de mon propre chef. Et je lui ai dit, je sais que tu vas te présenter. Il m'a répondu, non, je ne me présenterai pas. Je lui ai dit, si, si, et quand tu seras candidat, je t'aiderai.
Les élections de mi-mandat de 2022 approchent. Deux ans plus tôt, les démocrates ont repris la Maison-Blanche avec Joe Biden et le Sénat. Les républicains comptent bien reprendre le pouvoir.
We need a new politics for a new generation. The old way of doing things ain't working. We're going to go after the multinational companies and the government leaders who are shipping our jobs overseas and making it harder for businesses to prosper. Because the leaders of this country who have plundered it have decided they're going to reward their friends with special tax breaks and not the companies right here in Middletown, Ohio. That stops now.
Le chemin n'était pas simple. Il était clairement semé d'embûches. La primaire était surchargée de candidats sérieux. Tous avaient le parfait CV, la légitimité et la réputation nécessaires pour devenir sénateur des États-Unis.
The Ohio primaries, J.D. Vance.
That's what I want this campaign to be about. That's why I'm doing it.
C'était une compétition intense. Et dans cette primaire républicaine, la principale ligne d'attaque de ses adversaires, c'était qu'il avait été anti-Trump.
C'est quasiment impossible de gagner une primaire républicaine sans soutenir Donald Trump à 100%.
Pour gagner l'Ohio, il faut être MAGA. L'État est désormais solidement républicain et trumpiste. Donald Trump a gagné l'Ohio en 2016 et plus largement encore en 2020.
Vance a commencé à dire des choses différentes de ce qu'il disait avant. Et il a commencé à croire ces choses. Il y a peut-être une différence entre ce qu'il dit et ce qu'il pense, mais pas autant qu'on pourrait l'imaginer. Parce que ce n'est pas dans la nature humaine de faire le grand écart entre ce qu'on dit et ce qu'on pense.
Il a commencé à exprimer des positions très différentes de celles que je lui connaissais auparavant. Que ce soit sur Donald Trump ou sur les droits LGBT. C'est aussi à ce moment-là qu'il s'est laissé pousser la barbe et que beaucoup de choses ont changé.
Il essayait vraiment d'adopter le même discours que Trump sur l'immigration, sur tout ce qui touchait au Covid. Très isolationniste en matière de commerce international et très en faveur de tarifs douaniers protectionnistes.
Are you a racist? Do you hate Mexicans? The media calls us racist for wanting to build Trump's wall. Joe Biden's open border is killing Ohioans. I was raised on this street, where my grandma taught me that in America, kids can dream big. But we had something then that Ohio kids don't have today. Safety.
En l'espace de deux ans, il est passé de l'idée que Trump était quelqu'un de moralement répréhensible, l'objet d'un dangereux culte de la personnalité, à celle de dire que c'est le meilleur président de sa vie. Et les gens prennent ça au sérieux.
You've admitted you've changed your mind on Donald Trump, but in the past you've said, quote, I'm a never Trump guy.
Franchement, je lui tire mon chapeau.
I did change my mind about Donald Trump. He was a great president, and I think at the end of the day, one of the things this race presents is an opportunity. Who actually agrees with Trump on the core issues of trade, of immigration? Who's willing to fight for an America First foreign policy? I think that's clearly me. Thank you, Mr.
C'est un caméléon. C'est un politicien très talentueux.
J'étais déjà conseiller en communication pour J.D. et je suis descendu en Floride, à Mar-a-Lago, pour voir le président Trump et lui demander de soutenir officiellement J.D. Vance. Il était clairement intéressé, très intrigué, très impressionné par sa campagne, son parcours, ses capacités. Mais il restait préoccupé par une chose, son passé anti-Trump, bien sûr. Donc il n'a pas vraiment dit non. C'était plutôt peut-être, on verra. Je lui ai raconté que j'avais passé beaucoup de temps avec J.D. à faire campagne à ses côtés. Beaucoup de temps en voiture avec lui à sillonner l'Ohio. Pas forcément des moments très glamour, mais pendant ces longs trajets, on apprend vraiment à connaître quelqu'un. Et c'est ce que j'ai dit au président. Je lui ai dit que j'avais sondé le cœur et l'esprit de cet homme. Je lui ai dit aussi qu'il n'est pas seulement passé par une simple conversion politique, mais aussi une conversion spirituelle, et qu'il était devenu un fervent catholique. Et ces deux conversions sont liées. Le président Trump n'était pas au courant de cet aspect. Quand il a appris qu'il se passait quelque chose de profond chez J.D., dans son cœur, dans son esprit et son âme, alors il a été convaincu.
J.D. a officiellement rejoint l'Église catholique en recevant le sacrement de sa première communion et de sa confirmation. C'est lui ici avec sa femme et son petit garçon. J'adore cette photo. Je l'ai prise en noir et blanc. Ça le rend très solennel. Quand il a revêtu l'aube blanche que l'on porte lorsqu'on devient catholique, j'ai ressenti une émotion et de la joie pour lui. Moi aussi, je m'étais converti adulte au catholicisme et je savais à quel point c'était un moment important. Si vous êtes un catholique sérieux, l'enseignement de l'Église a une autorité sur vous. Il vous oblige. Il vous dit ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Et il vous donne une certaine façon de voir le monde. Je savais que sa vie allait complètement changer à partir de ce moment-là.
Je m'appelle Rod Dreher. Je suis écrivain et journaliste américain. Je suis un ami de J.D. Vance.
Jesus Christ. He is my Lord and He is my Savior. If you come to Jesus, you're going to have to change your whole way of living.
J.D. et moi, nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 2016. Il m'a écrit pour me dire qu'il réfléchissait beaucoup à devenir catholique et qu'il voulait mon aide. Que dois-je faire? À qui dois-je m'adresser?
Il a parlé avec beaucoup de gens pour savoir ce que ça voulait dire d'être catholique, sur le plan politique et aussi d'un point de vue théologique. Ce qui l'intéressait vraiment avec moi, c'était d'aborder la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire la relation entre la foi et les questions telles que le capitalisme, le socialisme ou la manière dont la politique doit refléter les croyances catholiques. L'enjeu à ce moment-là était de comprendre comment il pouvait penser les questions sociales et politiques à travers un prisme religieux.
Je savais que s'il se lançait en politique, comme il l'envisageait, ça l'obligerait, en tant que catholique sérieux, à prendre des positions que les membres de sa classe sociale et de son entourage professionnel n'apprécieraient pas. Par exemple, il allait devoir être contre le droit à l'avortement.
We march to protect the unborn. We march to proclaim and live out the sacred truth that every single child is a miracle and a gift from God.
Cette conversion spirituelle pour adorer le Christ et embrasser l'Église catholique a changé beaucoup plus que sa seule conception de l'éternel. Ça a changé sa manière de penser, bien sûr. C'est ce qui se produit quand la foi est bien réelle. Ça transforme votre vision du monde temporel de la politique. Et c'est ce qui explique en partie son adhésion à la cause nationaliste populiste. Si vous regardez bien, en dehors de Jedi, la plupart des leaders de ce mouvement sont catholiques pratiquants, et pas seulement culturellement catholiques.
Dans un pays où les protestants ont jusque-là accaparé le pouvoir, c'est une révolution.
Un conseiller de Trump m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Si vous regardez la première administration Trump, vous aviez beaucoup de chrétiens évangéliques à de nombreux postes clés. Aujourd'hui, ils sont presque tous catholiques. Pas tous, mais presque tous catholiques. C'est un changement majeur.
Cette nouvelle génération de catholiques engagés aspire à rompre radicalement avec l'héritage libéral. À leurs yeux, le libéralisme économique a provoqué la désindustrialisation et précipité la classe ouvrière dans le déclin. Le libéralisme social et culturel, quant à lui, aurait fragilisé l'esprit américain en imposant des idéaux égalitaires qu'il rejette avec vigueur. Il ne s'agit plus de réformer le système, mais de le remplacer entièrement par un projet dit post-libéral, inspiré notamment des travaux de Patrick Denin.
Pour le post-libéralisme, nous sommes sortis du libéralisme et de ses effets. Certains ont été positifs et beaucoup ont été négatifs. Nous estimons que maintenant nous devons aller de l'avant. Il faut passer au post-libéralisme. Nous devons aller au-delà de ce modèle actuel. Comment construire ces nouvelles institutions alors que celles d'aujourd'hui sont bloquées sur le modèle libéral ?
Patrick Denin a écrit ce livre très influent, intitulé « Pourquoi le libéralisme a échoué ?». L'idée, c'est que le libéralisme contient en son sein les germes de son autodestruction en raison du progrès qui saperait ses propres bases.
On peut considérer J.D. Vance comme un post-libéral. C'est-à-dire quelqu'un qui rejette l'ordre international hérité de l'après-guerre. Le capitalisme mondialisé, l'ordre mondial dirigé par les États-Unis, ce genre de choses. Être post-libéral, pour J.D., c'est refuser d'accepter le capitalisme de libre marché les yeux fermés. Parce qu'il a vu ce que cela a fait à notre pays et à sa génération.
Ils ont des visions différentes du type de société à construire après le libéralisme. Rejetons le wokisme, la révolution sexuelle, la politique raciale progressiste des 20 dernières années et revenons à une sorte de conservatisme social.
Dans la perspective de son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump entend transformer la colère de 2016 en vision politique structurée.
There is no mountain we cannot climb. Because we are Americans, and Americans kneel to God and to God alone.
L'idéologie post-libérale lui permet de donner forme à ce récit d'avenir.
par sa conversion au catholicisme et son adhésion aux thèses post-libérales, J.D. Vance devient l'homme capable d'incarner cette orientation nouvelle et la figure stratégique dont Trump a besoin.
J.D. Vance is going to clinch the Senate for the Republicans. This is a great person who I've really gotten to know. Yeah, he said some bad things about me, but that was before he knew me, and then he fell in love.
J.D. était déjà en bonne position avant le soutien de Trump. Mais c'est sûr que son appui a été décisif pour convaincre les indécis, les sceptiques et les abstentionnistes de se mobiliser pour J.D. et d'aller voter à la primaire.
J.D. is kissing my ass. He wants my support. I'm 18 points up. If I was 18 points down, he wouldn't want my support.
Le terme que mes sources utilisent, c'est le converti loyal. Trump adore les convertis loyaux, parce qu'une fois que vous avez franchi ce Rubicon, une fois que vous avez avalé cette pilule qui consiste à renier tout ce que vous disiez de lui auparavant, vous devenez un atout précieux parce que vous n'allez pas faire marche arrière. Vous le voyez refaire ça? Non. C'est un peu comme brûler les ponts derrière soi. Il n'y a pas de retour en arrière possible pour J.D.
God bless you.
Here, CBS News projects that in the state of Ohio, J.D. Vance will be the next Republican senator from the state of Ohio. A victory for Republicans, a victory for Democrats.
Never forget the great people of Ohio. Thank